France Bleu RCFM. France
Bleu. Yeah.
How?
Howdy.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM. C'est un plaisir de vous accueillir dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Ce soir, nous recevons la guitariste Sandrine Luigi et l'artiste Pascal Landolfine qui ne chantera pas, mais qui sera récitante sur ce spectacle qu'elle nous propose toutes deux à la Fabrique de Théâtre le 15 novembre prochain. Ce spectacle s'intitule Mare Nostrum.
Toc Toc.
Bonsoir Sandrine Luigi.
Bonsoir Marie.
Je suis contente parce que si on peut avoir un rendez-vous par an, moi ça me convient. Une nouvelle création tous les ans, c'est super. Pascal Landolfine, soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Alors on vous connaît, Pascal, avec Isouladine.
Oui, tout à fait.
Et alors là, vous nous faites une proposition un petit peu différente puisque oui. On ne vous entendra pas chanter.
Non.
Mais vous serez là pour nous raconter des histoires et nous dire des poèmes et des textes qui vont nourrir ce spectacle Mare Nostrum.
Tout à fait.
Vous vous étiez croisées avec Isouladine et toutes les deux, ou avant, ou...
Oui, en fait, avec Isouladine, c'était en 2000.
Au Féminart.
Voilà, au Féminart, exactement.
On l'avait invité à notre festival. Et c'est vrai que, alors toutes les deux, c'est vrai que ça a beaucoup accroché. Bah, c'est moi qui m'occupe en général de recevoir les artistes au festival. Et puis, on avait continué à se voir un petit peu après. Et à un moment donné, quand on a voulu mettre un instrument avec nos chansons, puisque nous étions a cappella, on avait fait appel à Sandrine, qui a tourné un petit moment avec nous.
Et c'est tout naturellement que vous avez eu le désir de proposer un projet commun, une création ?
Oui, voilà, parce que c'est parti, donc, comme Pascal a dit, d'une amitié. Et puis, justement, ce spectacle Mare Nostrum avec le voyage, tout ça, c'est quelque chose qui nous a tout de suite plu et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose.
Alors, des textes, des poésies, en français, en corse aussi?
Alors, les poésies, au départ, c'est vrai que c'est le projet de Sandrine, hein, ce mélange de poésie et de guitare classique. Elle voulait évoquer vraiment toute une période. Donc, on est plutôt dans la période romantique. Et elle avait déjà tout un choix de textes. Alors, grands auteurs, hein. On a Hugo, on a Musset, Oscar Wilde, Théophile Gauthier.
Ça met pas la pression.
Non, pas du tout. Et on s'est dit, bon, on peut pas réciter la poésie comme ça et puis et jouer. Il fallait faire un lien.
Un fil narrateur.
Voilà. Ouais. Donc, le fil narrateur, il se fera en Corse, en langue corse. Et finalement, de récitante, je suis devenue un peu un personnage. Et on va transposer cette femme dans notre Corse du 19e.
Pascal, est-ce que votre personnage, c'est cette jeune femme, cette sœur, qui voit partir son frère à travers les mers,
voilà, alors
explorer
jeune,
cette Méditerranée?
Ça va être un peu difficile pour moi de faire un jeune.
Mais du temps, mais ça va pas.
En tout cas, oui, au départ, on avait pensé... une sœur, une amie, c'est vrai que la sœur, elle a ce côté chez nous un petit peu particulier où on garde des liens très forts. Et effectivement, on est parti de cette idée où, eh bien, la sœur, elle est restée parce qu'on est au 19e, hein, on n'est pas à notre époque. Voilà. Et elle est toute seule et elle peut pas partir toute seule. Et lui, il est parti. C'est-à-dire, les rêves de voyage qu'ils avaient enfant, lui, il les a réalisés. Et elle est restée.
Donc il les partage, ses rêves, ce frère aventurier, par lettre, par cette relation épistolaire,
voilà,
que vous nous racontez tout au long de Mare Nostrum. Ce sera donc le 15 novembre à la Fabrique de Théâtre. Autre spectacle, on en parlera également, sans Pascal. À Strada di Venti, rendez-vous à l'Adia prochainement.
Voilà, c'est ça, le 21 à Ajaccio. Donc il y aura deux représentations. Et c'est un conte musical à partir d'une histoire de Francette Orson, donc Ninou et la mère des vents, et qui a été mis en musique par Philippe Biondi, donc, qui est percussionniste et aussi mon collègue au conservatoire. C'est ça. Et il y aura aussi Serge Lodi, professeur de violoncelle et donc violoncelliste, aussi mon collègue. Donc on se retrouve à trois musiciens, et Francette aussi raconte cette histoire de Ninou et la mère des vents. Et c'est vrai que c'est un spectacle pour enfants, mais pas seulement.
spectacle pour tous, spectacle voilà. Jeune public, voilà. Mais suffisamment élaboré pour séduire tout le monde, c'est-à-dire les parents qui accompagnent leurs enfants. Ce sera le 21 novembre à l'ADI à Ajaccio. Pour respecter la parité, mesdames, ce soir, nous accueillons Marc-André à Castellagne. Bonsoir Marc-André.
Bonsoir à toutes et à tous.
Michael, André et Annie qui est à Ajaccio. Bonsoir Michael.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous.
Ça va mon petit chou ?
Ça va.
Et puis Laurent Hérin, puisque nous sommes mardi, et le mardi, Laurent vient nous parler de cinéma.
Tout à fait, bonsoir Marie.
Ça
bonsoir
va Laurent
à tous. Ça va, merci.
Vous êtes bien ce soir, vous êtes en forme.
Bon. Pleine forme, après un beau festival d'animation.
Qui s'est déroulé ce week-end à Bastia. Moi, je vous propose d'écouter un extrait de l'album Polaris. Vous savez, cet album que j'ai écouté en boucle, je l'ai tellement dit à l'antenne. Marc-André à Castellagne, lorsqu'il écoute, il est à bout de souffle, vu qu'il est guitariste lui-même. Et sachez qu'il refuse de toucher sa guitare lorsque Sandrine Luigi est invitée au micro d'RCFM. C'est pour ça que là, vous êtes les mains vides.
Il faut savoir boxer dans sa catégorie.
Alors voilà, c'était la même vanne l'année dernière. J'espérais qu'il en fasse une autre.
La réalité n'a pas changé.
Allez, moi je vous propose d'écouter Amélia, Complainte des fous. Un mot quand même pour présenter ce morceau.
Alors Amélia, donc c'est une de mes compositions et c'est une introduction à la Complainte des fous justement. Donc en fait, quand j'ai enregistré la Complainte des fous avec Jean Castel, l'idée est venue de faire cette introduction que j'ai appelée Amélia. Et puis je l'ai fait écouter à Jean, et puis il me dit, mais il faut la mettre. Et je dis, bon, bah, d'accord. Enfin, c'était pas prévu. Et puis finalement, ça, c'est encore, c'est une fierté que cette pièce soit dans l'album.
Amélia, complainte des fous. Mais ça va pas. Tirer des objets à Stéphane Casalonga ou à Tony. C'est l'un des deux réalisateurs.
Le silence avant la musique, après la musique, c'est
mais
déjà
je rêve.
La musique.
Même moi, j'étais en apnée. Mais alors, si vous me cassez mon travail. Cet extrait de Polaris et c'est Sandrine Luigi. Si vous n'avez pas encore écouté cet album, eh bien, écoutez-le. C'est une pure merveille. Je rappelle que vous serez en spectacle avec Pascal Landolfini pour Mare Nostrum, que vous nous proposez le 15 novembre, c'est-à-dire ce vendredi à la Fabrique de Théâtre, rue Notre-Dame de Lourdes à Bastia. Michael Andréani.
Oui.
Alors, c'est vous qui avez fait ça ?
Non. Ah bon. Je ne peux pas, je n'ai pas la main.
J'ai pas la main. On a eu envie, on a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on parle de guitare ? Est-ce qu'on parle de la guitare en Corse ? Et puis, vous avez croisé dans les couloirs Jérôme Sousigny.
Oui, Jérôme Sousigny, qui est un excellent joueur de guitare et qui m'a donné une idée de chronique que je voudrais commencer par ces quelques notes. Écoutez bien. Bon, vous reconnaissez bien entendu, Sandrine, c'est vous qui jouez. Qu'est-ce que c'est que ce morceau, les autres ?
Moi, je sais, donc je sais aussi. Je me tais, ouais.
Marc-André, allez.
Les muletiers.
Oui.
Jacques Tessarec,
Jacques Tessarec, vous avez compris. Vous avez compris qui on allait parler. C'est à lui qu'on doit ce morceau. Personnage grandiose dont les travaux, je crois, d'ailleurs Sandrine, vous ont quand même un peu inspiré. Et si son nom n'est peut-être pas connu du commun des mortels, ce guitariste et compositeur a marqué quand même de son empreinte son temps. Il est né à Ajaccio en 1862, décédé à Paris en 1929. C'est le petit-fils d'un sergent tchèque envoyé en captivité en Corse après la bataille d'Austerlitz. Ce Jacques Tessarec qui va étudier avec un certain Koutli la guitare, guitariste réputé dans la cité impériale, avant d'entreprendre par lui-même de grandes choses, comme jouer par exemple pour le prince de Galles, le futur Édouard VII, dispenser des cours à de nombreux élèves comme François Agostini, qui était compositeur et directeur du Théâtre National de l'Opéra Comique, ou encore collecter des chants traditionnels corses. Il est par ailleurs à l'origine de deux publications importantes dans les années 20, Évolution de la guitare, 12 pièces et 3 études, mais aussi et surtout sa suite logique, la guitare polyphonique, où on retrouve différentes partitions d'air corse. Et à travers finalement des démonstrations que j'ai envie de qualifier de scientifiques, de Jacques Tessarec, la guitare, elle semble enfin considérée à sa juste valeur, comme un instrument qui dépasse le simple accompagnement, instrument aux possibilités considérables, avec la capacité d'adapter du classique, en faisant chanter sans les trahir la sonate au clair de lune de Beethoven, l'ouverture de Sémiramis ou encore même du Chopin. D'ailleurs, quelques mots pour illustrer tout cela. Dans la revue de la Corse du printemps 29, j'ai un peu exhumé certaines archives, c'était peu de temps après le décès de Jacques Tessarec, on retrouvait ces mots de Paul Chauvet à son sujet. Écoutez bien. Il fallait l'entendre refuser aux profanes pour sa guiterne, la guiterne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un instrument de musique médiévale à cordes pincées, l'accompagnement banal et populaire des violons et des pianos. Avec elle, seul, de mémoire, sans le secours du moindre feuillet, l'arsenal de toutes les règles de l'harmonie, docilement asservie à la libre expression du sentiment, elle n'était plus la parente pauvre des balmusettes, mais l'intégral instrument orchestral. D'ailleurs, autre citation aussi qui peut très bien se marier avec celle-ci et qui résume aussi le génie de Jacques Tessarec. Elle émane cette fois-ci.
Tessarec.
Je ne sais pas pourquoi je me suis joué un peu le dyslexique de service.
Non, c'est parce que peut-être qu'on le prononce ainsi dans le pays d'origine du nom. J'essaie de vous aider. Hein.
Oui. Georges Migaud, compositeur de renom, disait ceci de Jacques Tessarec. Écoutez bien. Nous sommes devant un fait exceptionnel qui prendra date dans l'histoire des instruments de musique et par la suite dans l'histoire de la musique même. Nous sommes en présence d'un homme qui porte en lui tout le génie d'un instrument. Il en a oublié de vivre. Il a même oublié d'en rechercher un peu de cette gloire passagère des applaudissements. Par ses deux ouvrages, Jacques Tessarec a le droit d'en attendre une gloire durable par-delà la vie. Il fait partie de cette phalange de héros qui savent se sacrifier pour offrir à la musique de s'exprimer plus parfaitement, plus totalement. Voilà.
Waouh ! Vous, Sandrine Luigi, Jacques Tessarec, oui. Vous jouez certaines de ces pièces. Oui. On parlait de la Méditerranée, du voyage, d'aller découvrir ailleurs ce qui se passe. Là, c'est un exemple fabuleux parce que c'est un enfant d'immigré qui se retrouve en Corse et qui va marquer toute la création de l'île, et puis par-delà les mers. Donc c'est magique comme exemple.
En plus, du coup, oui.
Merci, Michael.
Oui. De rien.
Il était ingénieur, en fait, au départ, ouais. Aux Ponts et Chaussées, et du coup, son parcours est au départ scientifique, et il a choisi d'être musicien, de collecter, justement, par rapport à son travail. Donc peut-être, voilà, il était plus tenté par la musique. Donc il a collecté les airs traditionnels de Corse et après, justement, il les a exportés. Il est parti à Paris, il a enseigné là-bas. Et c'est vrai que, voilà, il a voulu, justement, faire connaître la musique corse. Il est même parti aux États-Unis aussi. Bon, il lui arrivait quelques petites mésaventures. Donc ça a été un personnage assez incroyable. Mais il a toujours gardé, justement, cette âme, voilà, le côté corse. C'était très fort chez lui.
Et au niveau de la composition, qu'a-t-il de particulier ou de alors, notable?
Donc, ces compositions, c'est-à-dire qu'il y a des compositions qui sont vraiment très réussies, notamment tout ce qui est de la musique corse. Après, quand il s'agit de ces méthodes, c'est un petit peu ardu par moment.
C'est plus laborieux.
C'est assez compliqué même, parce que je pense que c'était voilà, il avait de très grands doigts aussi. On voit, il y a un tableau.
Oui, il y a une photo. Oui.
Magnifique. Au musée Fesch, où on voit justement. Alors bon, c'est peut-être aussi extrapolé, mais en tout cas, je pense qu'il était très grand aussi. Justement, il était. Il y a une anecdote. Quand il est revenu en Corse, justement, des enfants ont cru que c'était un Anglais très élégant, très très grand, très maigre. Enfin voilà. Et donc je pense qu'il y a aussi, il avait une technique qui lui était propre.
Ça c'est ça. Qui était adaptée à sa physiologie.
Voilà.
Ouais.
Ça c'est ça s'en re,
sa physionomie cas, ça s'en plutôt.
Quand ouais. quand on déchiffre ces deux méthodes. Et c'est vrai que oui. Après il y a un côté intéressant dans ses arrangements.
Ce qui est aussi très paradoxal, c'est que son air des muletiers qu'il a arrangé, qu'il a entre guillemets converti à la guitare, encodé dans cette guitare classique romantique, ça a servi pour créer au Lamento di Odreno, lui qui était ingénieur des Ponts et Chaussées, c'était rapporté d'Odreno.
C'est beau.
Odreno di Odreno, Pian de Louis Guérité, et voilà, c'est une catastrophe. Et ça a été sur sa musique, voilà. Petite anecdote.
Qui est très intéressante. Il vous arrive avec les mandolinistes, puisqu'on sait que vous faites un travail depuis quelques années ensemble, d'exhumer comme ça des partitions, de les adapter
Oui, alors justement, dans le fond prélat de la bibliothèque de patrimoniale de Bastia, on a retrouvé un fond de partitions. Et donc, on arrange et on les joue. On joue ces partitions avec l'ensemble Corda in Bastia. Et justement, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de partitions. Et donc ça veut dire que les partitions, à l'époque, on les achetait pour les jouer. Donc ça veut dire qu'il y avait une vraie pratique de mandoliniste et studiantina. Donc c'est important de les faire revivre aussi.
Pascal Landolfini, vous disiez, c'était le projet de Sandrine, ces textes des grands auteurs. Donc qui a fait la sélection? Vous avez eu votre mot à dire ou pas du tout?
Oui, j'ai
quand
eu
même.
Mon mot à dire. Oui, elle avait pas mal de textes. Elle avait déjà, en fait, elle avait ça en tête. C'est parti vraiment comme ça. Elle me dit, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est poésie, guitare, nanana, mais je peux pas faire les deux, dire, jouer. Moi, j'ai dit, c'est pour dire, moi, je peux faire. Voilà. Alors, on s'est embarqué là-dedans. Et donc, après, voilà, on a vraiment trié. On a pas mal remanié aussi par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Et puis je crois qu'on le ferait une autre fois, ça serait encore affiné et remanié.
Mmh. Et les textes, le texte, on va dire le fil narratif, c'est vous qui l'écrivez
Alors en Corse, oui.
Oui.
Oui, c'est moi. Ça, c'est moi.
Ça, c'est elle quand même, il faut le dire. C'est vous que nous jugerons vendredi.
C'est ça. La fabrique de théâtre.
Dans un instant, vous nous ferez le plaisir de nous donner un extrait de Mare Nostrum avec un texte et la guitare. Le temps de vous préparer, mesdames, voici Confession, toujours extrait de Polaris par Sandrine Luigi.
harmonique. T'es.
Oh, mais ils vont me flinguer toutes mes fins de morceaux. C'est un gimmick dans Toc Toc ou quoi? Sandrine Luigi à l'instant, donc confession, extrait de l'album Polaris. Quant à Michael Andréane, il a carrément les pieds sur la table. Moi, je vous assure, on va pas tenir jusqu'au mois de juin.
La bière, ça balance.
Je vous le dis, ça va pas.
Ça balance.
Cinco remé, Zubach.
On va pas y arriver. Oui, emmenez votre saucisse et votre vin, pourquoi pas. Mesdames, Sandrine Luigi et Pascal Landolfini, vous nous proposez, et je vous en remercie parce que je sais la contrainte que cela représente, de nous offrir un court extrait de votre spectacle que nous découvrirons pour celles et ceux qui n'étaient pas à Femina Arte et où vous l'avez donné une première fois. C'était dans une église. Mare Nostrum, pour notre part, nous découvrirons ce spectacle à la Fabrique de Théâtre vendredi prochain, le 15 novembre. Vous nous proposez quoi là, Pascal ?
Alors là, on est quasiment sur la fin du spectacle. C'est Voyage en Orient. Le texte, c'est un texte de Lamartine. Et on va essayer d'embarquer les gens vers ce Constantinople et l'embouchure du Bosphore. Voilà, où là, la Méditerranée prend fin, pour, en tout cas, lui, dans son
voyage. Aller peut-être en Asie.
Pour aller peut-être en Asie.
Nous faisons voile vers l'embouchure du Bosphore, en longeant les murs de Constantinople, que la mer vient laver. C'est là que Dieu et l'homme, la nature et l'art, ont placé ou créé de concert le point de vue le plus merveilleux que le regard humain puisse contempler sur la terre. Comparer quelque chose à ce magnifique et gracieux ensemble, c'est injurier la création. Quelques coups de rame nous portèrent en avant, et au point précis de la Corne d'Or, où l'on jouit à la fois de la vue du Bosphore, de la mer de Marmara, et enfin de la vue entière du port, ou plutôt de la mer intérieure de Constantinople. Là, nous oublions Marmara, la côte d'Asie et le Bosphore, pour contempler d'un seul regard le bassin même de la Corne d'Or et les sept villes suspendues sur les sept collines de Constantinople. Nous faisons voile vers les collines de Galata et de Péra. Le sérail s'éloignait de nous et grandissait en s'éloignant à mesure que l'œil embrassait davantage les vastes contours de ses murailles et la multitude de ses pentes, de ses arbres, de ses kiosques et de ses palais. Il aurait à lui seul de quoi asseoir une grande ville. Le port se creusait de plus en plus devant nous. Il circule comme un canal entre les flancs de montagnes recourbées et se développe plus en avance. Ce port ne ressemble en rien à un port. C'est plutôt un large fleuve, enceint des deux côtés de collines chargées de villes et couvert sur l'une et l'autre rive d'une flotte interminable de vaisseaux ancrés à l'ancre le long des maisons. Nous passons à travers cette multitude innombrable de bâtiments, les uns à l'ancre, les autres déjà à la voile, cinglant vers le Bosphore. Bâtiments de toute forme, de toute grandeur, de tout pavillon. Des volées de caïques turques circulent entre ces grandes masses, se croisant, se heurtant sans se renverser, se coudoyant comme la foule dans les places. Ainsi finit le beau port de Constantinople. Ainsi finit la vaste, belle et orageuse Méditerranée. Vous échouez dans une anse ombragée, au fond d'un golfe de verdure, sur un banc de gazon et de fleurs, loin du bruit et du mouvement de la mer et de la ville.
Mais quel bonheur, mesdames.
Merci
infiniment. Moi, j'y étais à Istanbul. Vieille Constantinople, quelle merveille. Alors, on va vraiment voyager. C'est émouvant en plus. C'est superbe, absolument superbe. Ce sera donc ce vendredi, le 15 novembre, à la Fabrique de Théâtre. Je suis très cliente aussi hein, de ça. Pour les gens qui penseraient que j'exagère. Donc, c'est tout ce que j'aime, voilà. Ce spectacle, donc signé Sandrine Luigi et Pascal Landolfini, c'est à la Fabrique de Théâtre ce vendredi. N'hésitez pas à réserver, à les appeler. Voilà, parce que la jauge est pas énorme. Et je vous le dis à chaque fois qu'on parle de la Fabrique, si vous ne connaissez pas ce théâtre, tiens, profitez de ce spectacle pour le découvrir, parce que c'est un véritable théâtre, avec un accueil, un décor.
C'est une ambiance.
Une technique, l'ambiance. Il y a toujours un verre de vin ou une grappe de raisin pour vous accueillir. Et le public est toujours chouette. Il y a souvent des étudiants, donc ça fait plaisir. C'est un théâtre que j'aime beaucoup. Voilà, c'est rue Notre-Dame de Lourdes, à Bastia. Et vous pourrez donc applaudir Mare Nostrum. Messieurs, ça vous a plu? Ben, vous ne pouvez pas dire non.
Ah non, non, mais j'ai fermé les yeux. On est emporté tout de suite, ouais.
C'est cinématographique. Assez, pour le coup, Laurent
Non, ça nous emporte vraiment. Ouais. On voyage avec vous. Ça, c'est magnifique.
Magnifique. Marc-André à Castellane.
Que dire de plus? C'est une véritable invitation au voyage avec des subtilités de rythme, d'écriture, avec une écriture qui est quand même choisie, triée sur le volet, qui est brillante et qui est rendue brillante par ses notes de guitare.
J'ai pris mon carnet intime, ça c'est vrai, elles ont choisi des auteurs.
Ce matin, je me sentais très mal. J'avais un gros bouton. J'ai mis un kilo de fond de teint, ça n'a pas marché. Donc ces notes de guitare qui s'égrènent par-dessus et qui vont venir servir quelque part de plancher à cette écriture, voilà, une fois de plus excellente. Évidemment, ça voyage, quoi.
Lorsque je vous ai dit que nous recevions Sandrine Luigi, à quoi vous avez pensé? Est-ce que vous avez pensé à cet instrument, à cette guitare qui est tellement ancrée chez nous, en Corse?
Oui, tout à fait. Évidemment, bon, Sandrine Luigi, ça rime avec guitare. Autant dire que je l'aime bien.
Avec humilité, avec élégance, avec beauté,
avec féminité, ouais, avec classe. Ouais. Si on va remonter un petit peu le temps, qu'est-ce qui se passe? Parce que la musique corse, à la base, si on se plonge très très loin dans le temps, il y a la voix. C'est le premier truc qui ressort, c'est le chant, c'est la polyphonie. Et sur cet attirail agro-pastoral va se greffer l'instrument du lieu. Pivane, tchalambele, piroule. C'est-à-dire des instruments qui sont fabriqués avec ce qu'on a sous la main, des cornes, des bambous, du bois. Et puis petit à petit, notamment, alors on m'arrêtera parce que je ne suis pas un très très grand spécialiste, je pense que Sandrine Luigi pourra revenir, et si je me trompe c'est très bien parce que ça donnera l'occasion de corriger le tir. Petit à petit, des voyageurs qui passent, des marchands, il y a des instruments qui tombent quelque part du camion.
Des
baladins, tout à fait. Notamment, je pense au cours du 17e, 18e. Le violon devient vite un grand chouchou parce qu'il sert à accompagner les balles. Il y a également le fameux sistre italien Agitera in corso, qui est très populaire. Ça sert donc à accompagner cette musique à danser. Chose particulière, on est très faible au niveau de la percussion. Petite anecdote intéressante. Le tambour et ce qu'on a, donc la cornemuse corse, à Miscapabarola, sont interdits par les Génois. Parce que cette musique puissante de tambour harangue les troupes et rend les Corses encore plus dangereux qu'ils ne sont. Donc ils se disent, on va prendre cher si on les laisse jouer du tambour, on interdit ça. Non, histoire vraie. Donc,
légende vraie.
Pour tous ceux qui sont arythmiques, diagol paidienwesi, c'est pas votre faute. Voilà. Donc petit à petit, et il y a un basculement historique. Fin 19e, il me semble, courant 19e, où petit à petit on suit la mode italienne, le sistre est progressivement mis de côté, le violon lui reste dans les balles, et on commence à utiliser la guitare et la mandoline qui deviennent de plus en plus populaires. Ce qui est touchant, c'est qu'on retrouve, que ce soit pour les violons, que ce soit pour les mandolines, que ce soit pour les guitares, il y a des instruments qui sont venus d'ailleurs, et puis on voit que petit à petit, Juan Calari s'improvise luthier, fabrique des instruments, c'est le cas par exemple des deux violons d'Achille, époque un peu plus contemporaine, qui sont aujourd'hui au musée de Corte, qui montrent qu'il y a cette appropriation et ces gens qui jouent un petit peu comme ils veulent. Et Jacques Tessarec a un rôle extrêmement important parce qu'il va utiliser ces très jolies mélodies vocales qui sont chantées par les Corses et va commencer à les coder dans la guitare. Et ça, c'est un passage important de l'histoire. Cette guitare qui devient de plus en plus populaire, les estudiantines arrivent, guitare, mandoline. Petit à petit, on glisse dans l'époque des cabarets où on commence à se jazzifier, à utiliser des guitares manouches, avec la guitare donc à corde acier qui rentre en ligne de compte, et puis là, le riacuisto. Et nous devenons tous des andins. C'est-à-dire qu'on se met à gratter des goropes, des musiques sud-américaines. Pourquoi ? Ben c'est la faute des Génois, parce qu'on n'a pas de structure rythmique et qu'il faut bien la trouver quelque part. Et du coup, on se dit, ben tiens, pourquoi pas en particulier Minigal, que l'on salue, cet homme merveilleux. Et petit à petit, donc on a eu un spectre qui s'élargit. Et puis après, avec l'époque moderne, évidemment, le rock, le blues, tout ça, parce qu'on a un accès à la culture qui est peut-être beaucoup plus facile et rapide qu'avant. D'où l'importance de cette guitare classique qui est présente ici, parce qu'elle retrace énormément de choses dans son sillon. Elle part donc de cette voix, puisqu'elle la retranspose en notes, traverse toutes ces époques et nous restitue ça avec une certaine excellence.
L'histoire de la guitare en Corse en 2 minutes par Marc-André à Castellane. Pourriez-vous me faire une transition avec Tchoucharella, s'il vous plaît?
Ben, Tchoucharella, justement, la voix Tchoucharella. Alors déjà, le texte est très ancien parce qu'il renvoie à des légendes médiévales. Tchistachtor, Sonda, Dako, Tchirouni, Dugunlo. Et ça renvoie à une symbolique qui est païenne. Donc c'est une berceuse qui remonte vraiment à la nuit des temps. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement d'où ça vient, tellement que c'est ancien. C'est la voix, c'est le premier chant. Il est très puissant parce que... Tchoucharella, je pense que Igor Sibendante...
On avait dit que vous ne chanteriez pas.
Peut-être qu'il y a 500 ans... La première musique qu'ont entendu les gosses ici de tout temps, ça a été ça. Quoi. Ouais. C'est le premier son qui vient frapper l'oreille. On retrouve la démarche de Jacques Tessarèche à la codée dans cette guitare classique. Et la guitare classique, c'est peut-être l'instrument qui va le plus se rapprocher de la voix dans ce qu'elle peut restituer d'émotion et de précision dans ce qu'on veut donner sur les notes.
Jacques Tessarèche. Tessarèche. Vous voilà. Auriez... Merci.
Il s'appellerait Bonzini, ça serait plus facile à prononcer.
Oui, bien sûr.
Attends, Tessarèque, il n'y a pas eu...
Vous nous jouiez Tchoucharella. Allez, Sandrine Luigi. Sandrine Luigi sur RCFM et dans Toc Toc. Elle a tout d'une grande, vraiment. Merci beaucoup pour ce moment délicieux une nouvelle fois. J'ai droit une fois par an, et vous aussi, chers auditeurs. Il faudra donc ensuite attendre l'année prochaine, ou alors écouter les émissions en podcast, les Toc Toc avec Sandrine Louis, ou aller sur les réseaux sociaux, où nous venons de publier une vidéo, et où vous étiez nombreux à nous suivre, et je vous en remercie. Et si nous écoutions Caprice Arabe, mais avant ça, moi je vous propose Caprice Arabe, qu'on entendra durant le spectacle Mare Nostrum, donc ce vendredi le 15 à la Fabrique de Théâtre. Je rappelle que vous serez également, Sandrine, dans le spectacle à Strada di Juventi, ce sera le 21 novembre, un jeudi à 18h30, spectacle tout public, et ce sera à l'Adi à Ajaccio. Moi je vous propose de parler cinéma à présent avec Laurent Hérin, et nous allons, vous allez voir le contraste, parler de la rivalité entre Ford et Ferrari. Je le dis très vite tellement j'ai honte, avec Le Mans 66.
On commence par ça, oui, une des sorties de la semaine, c'est une semaine assez calme, donc Le Mans 66 de James Mangold, qui est un réalisateur qu'on avait découvert avec Copland, avec Sylvester Stallone, un très joli film.
Ah, Copland, moi j'ai adoré.
Ouais, un gros contre-emploi de Stallone.
Stallone, il est extra dedans.
Ouais.
Bon, plus récemment,
un peu en loser,
en contre-emploi,
flic,
complètement.
Ouais. C'est ça.
Ouais. Ou ouais. Ouais.
Non, n'exagérez pas non plus.
Il avait pris, j'ai 20 kilos pour jouer le film.
Et le film était plutôt sympathique. Bon, plus récemment, il a fait Wolverine. Donc voilà, là, il s'attaque à une histoire vraie, celle en 1966 de l'équipe
Stallone.
De Ford. Non, James Mangold, le réalisateur.
Il a fait Rambo 8.
Le 6 seulement. Et donc, Ford qui veut détrôner Ferrari à la tête des 24 heures du Mans. Donc voilà, ça va être la grande bagarre entre eux et les deux acteurs principaux. On les connaît bien, Matt Damon, Christian Bale.
Et puis on va avoir de belles voitures.
Apparemment, ça fonctionne surtout pour le duo d'acteurs.
Oui.
À découvrir à partir de demain en salle.
Ensuite, la Palme d'Or.
La Palme d'Or ?
Pas du tout.
Non, le prix d'interprétation féminine.
Le prix d'interprétation féminine, ouais.
Effectivement, un des films de Cannes qui a fait
et
un petit peu sensation.
Et le prix d'interprétation masculine à Cannes pour féminine et prix d'interprétation masculine ailleurs.
Ah, pour Little Joe, ouais, de Jessica Hassner, donc un film autrichien, un film d'anticipation, où alors je vais lire parce que une phytogénéticienne qui invente une nouvelle plante, qui conçoit une plante, une fleur, tout à fait, qui a des impacts un peu particuliers sur les gens.
Elle rendrait heureux cette fleur.
C'est ça,
mais on se rend compte.
Elle ne rend pas toujours heureux, c'est un peu ça l'anticipation. Ouais. Hein.
C'est un film qui a beaucoup, beaucoup plu. La critique est dithyrambique, vous l'avez vu, vous ?
Non, malheureusement, je ne l'ai pas découvert à Cannes, non.
Ouais.
Et non, Little Joe.
Mais vous avez l'air, vous avez une retenue.
J'ai une certaine retenue, ouais, parce que vous dites la critique, effectivement, le public un peu moins. À la sortie des séances à Cannes, les gens étaient assez mitigés. Étaient d'ailleurs étonnés qu'il y ait un prix d'interprétation féminine.
Ça, c'est toujours dans le genre aussi.
Toujours un peu gênant. Mais bon, c'est comme ça.
Un thriller ensuite ?
Oh, un film d'horreur. Enfin, c'est le film d'horreur habituel. Il en sort presque toutes les semaines en ce moment, mais les ados adorent, on le sait, à Bastia, donc tant mieux, à Bastia et ailleurs. Hein. Mais on sait que les ados se précipitent dans les salles pour frissonner. Et là, ça mélange à la fois l'horreur et à la fois les réseaux sociaux, puisqu'on est sur Countdown, le titre du film, et que ça raconte une application qu'on peut télécharger. N'essayez pas de la télécharger, Marie. Cette application vous dit combien de temps il vous reste à vivre.
Ah, voilà. J'en ai entendu parler. Mais ça n'existe pas, ça.
Ben, j'espère bien que
possible.
Non. Mais c'est en tout cas le pitch de ce petit film d'horreur, toujours sympathique. Et puis on sait que les gens aiment aller se faire peur en salle.
Le réalisateur est connu ?
Non, absolument pas. C'est son premier film. Il vient. Les acteurs non plus. Non, ça fait partie de ces petites productions américaines. Ça a très bien fonctionné. On se souvient avec Blumhouse, qui est une maison de production qui a réussi à faire quelques films d'horreur fauchés qu'on cartonnait, comme Us, par exemple. Voilà. Donc tout le monde essayait de s'y mettre. Là, en l'occurrence, ça vient un peu de la télé, tout ça, les séries.
Oui. Donc pour reprendre sur Little Joe et pour rectifier mon erreur, merci en tout cas Laurent d'avoir repris. C'était les nominations. Donc Palme d'Or, prix d'interprétation masculine, Grand Prix du Festival de Cannes, prix du jury du Festival de Cannes, et en fait, ils ont obtenu prix d'interprétation.
Dans les nominations, tout à fait. C'est l'actrice Emily Bicham, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà.
Et oui, ça c'est comme ça.
Cette adaptation de Shining, comment ça fonctionne ?
Ah, question. Dr. Sleep ?
Moi, je trouve que ça fonctionne bien, mais il va
vous n'êtes pas encore allé le voir.
Il va me gronder.
Mais à culpa, Maxima.
Moi, je trouve ça super.
Méga cool.
Allez-y Marie, je vous en prie.
Non, moi je trouve ça très très bien pour les amoureux de Shining, parce qu'il y a plein de références et on se sent un peu privilégié lorsqu'on a vu le film de pouvoir repérer tous les petits clins d'œil. Après moi je trouve que le film il est bien.
Le film est pas mal, mais moi je le vois de façon inverse. Ouais. C'est plutôt l'hommage à Shining qui me gêne.
Ah
c'est-à-dire
oui
que le film en lui-même fonctionne plutôt bien, l'histoire est pas mal, l'acteur est très très bien. Et derrière, ces petites références à Shining en permanence le ramènent vers le film, vers autre chose. Et je pense qu'il n'est pas à la hauteur, donc c'est forcément un petit peu gênant.
D'accord.
Mais c'est pas un mauvais film, je le conseille effectivement. S'il vous reste encore quelques séances au Régent, n'hésitez pas.
Vous venez de voir pour nous J'accuse de Polanski.
Ce matin, je sors du J'accuse de Polanski. Alors on va pas trop parler de ce qui entoure le film au niveau cinématographique.
Bah, polémique, nouvelle accusation.
Exactement.
Voilà, pour Polanski.
Même si effectivement le film parle de ça aussi.
Ouais, certains acteurs ont annulé en fait leur intervention pour la promotion du film.
Comme Jean Dujardin, et c'est pas n'importe quel acteur. Dans le film, il est assez époustouflant. Hein.
Tout simplement parce qu'il n'avait pas envie qu'on lui parle de la polémique.
Je pense que lui, comme Polanski, ne veulent pas que la sortie soit phagocytée par ça, mais je pense que c'est trop tard.
Hein. Bon, parlons du film alors.
Le film en lui-même, très très sombre. Donc peut-être
le synopsis.
Le synopsis rapide, donc J'accuse, l'affaire Dreyfus, tout le monde la connaît. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que c'est vu du côté de... Enfin, c'est Robert Harris qui a écrit ce livre et ensuite qui a fait le co-scénario, qui a été co-scénariste, pardon, avec notre cher...
Polanski,
merci Marie. Et qu'en fait, ils prennent la position du colonel Picard, qui dénonce et qui se rend compte que Dreyfus n'est pas coupable et qui dénonce ça auprès de l'État français.
Incarné par Jean Dujardin.
C'est Jean Dujardin qui joue le colonel Picard. Mais de toute façon, le casting est assez
époustouflant. C'est hallucinant parce qu'il lui ressemble.
Physiquement.
Lorsqu'on voit les gravures et qu'on voit Jean Dujardin, ça ne pouvait pas être un autre acteur, ce n'est pas possible.
Et d'ailleurs, à la fin du film, on voit les personnages dans la réalité et ceux par qui ils sont joués. Donc c'est assez intéressant de voir que les ressemblances.
Donc, Polanski signe un grand film.
Oui, il n'y a rien à dire au niveau cinématographique. La photo est incroyable, le film est très sombre et c'est ce qui est voulu. Et c'est un Paris très gris, très froid. Ensuite, les acteurs sont juste tous assez fabuleux. Et une petite anecdote, tiens, le Damien Bonnard, dont on va beaucoup parler dans les semaines à venir.
Mais non !
C'est pour ça que j'en parle, mais si, Marie. On va le voir la semaine prochaine avec Les Misérables, dans 15 jours avec Seuls les Bêtes. Enfin, il est vraiment de tous les films. Et là, dans le Polanski, il a un petit rôle de détective.
Mais vous l'aviez annoncé, vous l'aviez dit.
Que Damien Bonnard allait devenir un grand, mais il l'est. Ouais, c'est un grand acteur.
Et moi, j'en doutais, et encore une fois, j'avais tort. Les journées du cinéma espagnol et latino-américain au studio.
Au studio pendant 15 jours, donc l'occasion de revoir ou de voir des films.
À partir de quand ?
À partir de demain, à partir de mercredi. Vous avez le programme sur le site du studio. On peut revoir le film de Almodovar, Douleur et gloire, si on l'a pas encore vu. El Reino aussi, que je vous
conseille.
Merci, Marie, j'ai du mal ce soir. Acusada, ça doit vous parler, c'est un film espagnol qui a inspiré La fille au bracelet.
Mais bien sûr.
Le film qui a fait l'ouverture d'Arte Mare.
Bien sûr.
La fille au bracelet qui est totalement adaptée d'Acusada. Donc on pourra découvrir l'original. Et dimanche, petite anecdote, le film Nuestras Madres.
Qui était bien, mais pas top.
En avant-première.
La fille au bracelet.
Voilà. Bah, Acusada, on va voir si l'original est meilleur.
D'accord.
Et Nuestras Madres,
c'est très bien ça.
Dimanche après-midi.
Ça, c'est très
film guatémaltèque qui était diffusé à l'âme à cet été.
Ça, c'est très très bien.
C'est très très bien. Il y a eu la caméra dans la canne.
Bon, très bien.
Ce qui est souvent une référence.
Allez, pour les journées du cinéma espagnol et latino-américain au studio de Bastia. Et sachez que viennent de se terminer aussi les rencontres du film d'animation, 4e édition. C'était le week-end dernier. Laurent, vous y étiez puisque vous êtes le co-créateur de ces rencontres. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde ?
Oui, bien sûr, ça a été un succès à nouveau, que ce soit les ateliers qui se passent à Una Volta, que ce soit les films au Régent. Et surtout, on a fini en beauté avec un film incroyable de Jérémy Clapin qui s'appelle J'ai perdu mon corps. J'en reparle parce qu'il est au Régent toute la semaine, donc n'hésitez pas, foncez voir ce film.
Il a eu le prix à Cannes, premier film d'animation à remporter un prix à Cannes. Je suis la naïve, mais c'est moi qui ai présenté le festival et je peux vous dire qu'il y avait du monde, que les séances étaient complètes.
Oh.
Chaque séance était complète. Merci beaucoup, Laurent Hérin.
Merci à vous, Marie.
Vous avez d'autres questions au cinéma ? Mesdames, Marc-André, vous avez votre question. Michael.
Sandrine vient souvent au cinéma. Hein.
Oui.
Habitude de la voir.
Cinéphile, Sandrine.
Oui, oui.
Pourquoi il faut aller voir ce spectacle Mare Nostrum à la Fabrique de Théâtre, Pascal ?
Alors, moi, je dirais pour retrouver un petit peu ce côté qui nous fait rêver de la Méditerranée, parce que si on devait en parler de nos jours, je me suis posé la question. Les textes ne seraient pas ceux-là ?
Mais non.
On serait dans du très très noir. Et je crois que là, on a envie de retrouver un petit peu cette nostalgie et rêver un petit peu.
On a parlé des différents auteurs que nous entendrons avec la voix de Pascal. Nous n'avons pas parlé des compositeurs, un petit peu, mais très brièvement. On entendra quoi ?
Alors, on va entendre des pièces espagnoles donc de Francisco Tárrega, Isaac Albéniz,
Après, on va entendre aussi des airs italiens, des tarentelles, caprice arabe aussi, pour le côté du coup des pays de l'Orient, tout ça. Et après aussi, La Complainte des Fous, donc des extraits de mon album.
Merci infiniment Sandrine Luigi, merci Pascal Landolfini d'avoir été avec nous et puis d'avoir accepté de nous donner un texte. Merci à Michael Andréani.
Merci à vous, merci à tous.
Monsieur Jacques Tessarec de la soirée. Merci à Marc-André à Castellani, merci beaucoup.
Merci à vous.
Laurent Hérin également pour le cinéma. Merci. Et puis là, du coup, la parité n'est plus du tout respectée puisque c'était Stéphane Cazal qui réalisait l'émission depuis Ajaccio et Tony de Jaffer depuis Bastia. Merci beaucoup. Et voici Caprice Arabe.
CFM.
Interruption spéciale.
Avec la formule garantie croisée associée du contrat capital des CMMA, au décès d'un des associés, on dispose d'un capital pour acheter ses parts.
MMA. Conditions en agence MMA.
La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre.
Vous êtes bien chez vous, bien au chaud, et en plus vous êtes content. Content de faire jusqu'à 30% d'économie sur votre facture de chauffage. Vous aussi, isolez vos combles à partir de 1 euro avec Isocomble et offrez un nouveau confort à votre foyer. Découvrez aussi son isolant exclusif en laine de coton sans risque d'allergie. Profitez en plus de crédits d'impôt et des primes d'économie d'énergie du dispositif Agir Plus. Isocomble, une entreprise locale, partenaire historique de la rénovation énergétique en Corse. Espace Château d'Accès Cheminée à Bastia et espace Mobalpa à Porto Vecchio. Isocomble, une activité du groupe Costa Luchini.